Le capitaine fracasse. D'après Théophile Gautier, lecture clé en français facile, copyright clé international 2024. Chapitre 1. En Gascogne, sur une colline, s'élève, sous le règne de Louis XIII, un petit château avec deux tours. De loin, il semble agréable. Mais si on s'approche, on voit tout de suite qu'il est comme abandonné. Ce domaine appartient au baron de Sigognac, un jeune noble sans fortune qui vit seul avec son domestique Pierre. Ce soir-là, dans la seule pièce un peu vivante de ce triste château, la cuisine, un faible feu brûle dans la cheminée. Un vieux chat noir semble surveiller une soupe aux choux qui cuit dans une marmite. Soudain, on entend un pas lourd qui approche. La porte grince et un vieil homme fait son entrée dans la pièce. À l'apparition du nouveau venu, le chat vient se frotter contre ses jambes. « Bien, bien, Belzébuth, » dit l'homme en caressant le chat. « Je sais que tu m'aimes. » Et nous sommes assez seuls, mon pauvre maître et moi, pour apprécier ta sympathie. Pierre, c'est le nom de cet homme. Le vieux serviteur du baron prend alors un peu de bois et le jette dans le feu, puis il s'assoit sur une chaise. Le jeune maître met longtemps à venir aujourd'hui, ajoute-t-il. La nuit va tomber et de gros nuages annoncent la pluie. Quel plaisir peut-il trouver à se promener seul dans la campagne? Cela lui permet sans doute d'oublier la tristesse de ce château. C'est alors qu'on entend un chien aboyer et le pas d'un cheval. Le chat arrête sa toilette et se dirige vers la porte. Peu après, le baron de Sigognac entre dans la pièce, précédé de Miro, son vieux chien. Le baron est un jeune homme de 25 ou 26 ans, à l'air grave et sérieux. Il a une certaine beauté, mais on sent chez lui qu'il a renoncé à toute gaieté et qu'une grande mélancolie domine tout son être. Après avoir répondu d'un geste au salut respectueux de Pierre, il s'assoit en silence devant une petite table. Pierre lui sert alors son maigre dîner, une soupe avec du pain. Le repas terminé, le baron fait signe à Pierre qu'il veut se retirer. Pierre allume une lampe et se met à précéder son maître dans l'escalier. Miro et Belzébuth s'unissent au cortège. Arrivé dans la chambre, le vieux serviteur allume une petite lampe puis sort, suivi de Miro. Belzébuth s'installe sur un fauteuil. Le baron prend un livre posé sur une table et s'assoit sur un autre fauteuil. Le temps est devenu mauvais. De grosses gouttes de pluie frappent les vitres de la pièce, mais le baron ne fait pas attention. Il lit son livre sans grand enthousiasme. Depuis quelques instants, Belzébuth semble inquiet. Il se lève, va vers la fenêtre, et se dresse pour essayer de voir dehors malgré la nuit. Soudain, un long hurlement de Miro s'élève. Il se passe décidément quelque chose d'étrange dans les environs du château, d'ordinaire si tranquille. Trois coups sont alors frappés assez violemment à la porte du château. Qui peut, à cette heure, venir troubler la solitude du manoir et le silence de la nuit? Sigognac descend avec sa lampe. Il entr'ouvre la porte et se trouve face à un personnage assez étrange. « Je vous prie de m'excuser, noble châtelain, de venir troubler votre soirée, mais... »«
Que voulez-vous ?» coupe un peu sèchement le baron.
« L'hospitalité pour moi et mes camarades, des princes et des princesses, des Léandres et des Isabelles, des docteurs et des capitaines qui se promènent de ville en ville sur le chariot de Tespi. Mais malheureusement, le chariot, traîné par des bœufs, est maintenant embourbé à quelques pas de votre château. »
Si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes des comédiens en tournée et vous vous êtes perdu.
Vous avez parfaitement compris mes paroles,
répond l'acteur.
Puis-je espérer que votre seigneurie accepte ma demande ?
Ma maison est en mauvais état et je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais vous y serez mieux qu'en plein air avec cette pluie. Le pédant, car tout indique que c'est son rôle dans la troupe, s'incline en signe de remerciement. Pendant cette conversation, Pierre, réveillé par les aboiements de Miro, s'est levé et vient de rejoindre son maître. Comprenant ce qui se passe, il allume une lampe et les trois hommes se dirigent vers la charrette embourbée. Ils trouvent le Léandre, Hérode, dit le tyran, et le Matamore en train de pousser en vain le chariot, Scapin qui donne des ordres, et les femmes, Isabelle, Donna Serafina, Zerbine, la soubrette, qui gémissent de peur. Grâce à l'expérience de Pierre, le chariot finit par bouger et, peu après, se retrouve dans la cour du château. Une fois les bœufs dételés et conduits dans l'écurie à côté du cheval blanc de Cigognac, les comédiennes sautent à terre et, guidées par le baron, montent dans la salle à manger, une pièce un peu habitable de la maison. Pierre allume aussitôt un feu qui se met vite à flamber joyeusement. « Je peux seulement vous offrir un toit, » dit le jeune baron. « Mon garde-manger est vide. Je vis seul dans ce château et ne reçois jamais personne. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de fortune. »« Pas d'inquiétude, » dit Blasius le pédant. « Je m'occupe de ravitailler la troupe. J'ai toujours en réserve du jambon, des pâtés et de bons vins. « Bien parlé, pédant !» s'exclame le Léandre. « Va chercher les provisions, et si ce seigneur le permet et veut bien dîner avec nous, préparons la table du festin. Il y a de la vaisselle dans ces buffets. Allons, mesdames, aidez-moi à mettre la table. »
Le baron, un peu troublé par cette aventure, accepte, et Isabelle et Zerbine, qui sont assises près du feu, se lèvent aussitôt et mettent sur la table, que Pierre vient de recouvrir d'une vieille nappe blanche, des plats et des assiettes. Le pédant revient bientôt avec deux paniers pleins de mets appétissants. Le Matamore, trouvant sans doute la lampe trop faible, est allé chercher dans le chariot des bougies de théâtre et tout à coup la pièce morte prend une forme de vie. Cigognac, qui, au début, trouvait cette aventure un peu désagréable, se laisse bientôt aller à une sensation de bien-être inconnu. Les femmes sont très jolies, en particulier Isabelle, et cela trouble un peu le jeune noble. Le début du repas est silencieux. Les grands appétits sont muets comme les grandes passions. Mais peu à peu, on se met à parler. Le jeune baron mange avec appétit. Personne ne peut savoir qu'il a déjà dîné. Il ne cesse de regarder Isabelle et de l'admirer. La jeune fille s'est aperçue de l'effet qu'elle produit sur le jeune baron et elle lui répond par des regards langoureux. Le repas terminé, tout le monde va se coucher. La nuit se passe sans incident. Seul, Cigognac ne peut fermer l'œil de la nuit. La venue de ces comédiens lui paraît comme une invitation à sortir de ce château lugubre. Le jour se lève enfin. Le baron est installé dans un fauteuil de la salle à manger quand la soubrette arrive. En le voyant, elle fait une jolie révérence de comédie. « Je suis désolé, » dit Cigognac, « de l'état de cette demeure. Plus faite pour loger des fantômes que des êtres vivants. Ce n'est pas un problème, monsieur. Grâce à vous, nous avons dormi dans des lits et non pas dans le chariot, sous la pluie. En plus, cet endroit est magnifique si on compare avec les granges où nous devons souvent dormir. »
Pierre entre alors dans la pièce pour mettre de l'ordre et allumer le feu. D'autres comédiens arrivent enfin, parmi lesquels Isabelle. « Vous allez avoir un maigre petit déjeuner, » dit Cigognac. « Comme vous l'avez vu, je ne suis pas riche. »«
Peu importe, » le coupe Scapin. « Il est préférable de manger quelque chose à ne rien manger du tout. »
Ce qui m'étonne, c'est qu'un jeune homme comme vous reste vivre dans cette solitude. Pourquoi n'allez-vous pas à Paris où il y a toutes les chances de bien vivre ?
J'y ai pensé quelquefois, mais je n'ai pas d'amis à Paris. Et les descendants de ceux qui ont connu ma famille, quand elle était plus riche et avait des fonctions à la cour, ne vont pas s'intéresser à un Cigognac pauvre et maigre.
Vous n'êtes pas obligé, continue le comédien, d'entrer triomphalement dans la grande ville.
Si notre humble char à bœufs ne révolte pas l'orgueil de votre seigneurie, venez avec nous à Paris, puisque notre troupe y va.
En entendant cela, Cigognac rougit un peu. D'une part, l'idée d'aller à Paris avec une troupe de saltimbanques ne lui plaît pas beaucoup. Mais d'autre part, il est touché par la proposition du comédien. Il hésite à répondre quand Isabelle s'avance d'un air aimable et dit
« Notre poète, qui a fait un héritage, nous a quittés. Monsieur le baron peut le remplacer ? J'ai vu dans la bibliothèque des livres de poésie. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide à préparer nos rôles, corrige nos textes. »
En disant cela, Isabelle jette à Cigognac un regard si doux, si charmant que le jeune homme ne peut résister. Il accepte de partir. Le petit déjeuner terminé, le baron demande au comédien de l'attendre un peu, puis il va voir Pierre et lui confie son projet. Le fidèle serviteur comprend tout de suite les raisons du départ de son maître, même si cela lui cause une immense peine. Il va donc seller le cheval de Cigognac, car le baron a décidé de monter dans le chariot des comédiens qu'à 2 ou 3 lieues du château pour dissimuler son départ. Il a de la sorte l'air d'accompagner ses invités. Pierre doit suivre à pied, puis ramener la bête à l'écurie. Au moment de quitter le manoir, Cigognac se sent triste, mais c'est ainsi. Il part donc suivi de Pierre. Miro et Belzébuth suivent quelque temps de l'œil Cigognac, puis ils retournent tranquillement au château. Le moment de la séparation du maître et du serviteur est arrivé. Moment pénible, car Pierre a vu naître Cigognac et a rempli, à sa façon, auprès du baron, le rôle d'un ami.
« Que Dieu protège votre seigneurie, » dit-il en s'inclinant sur la main que lui tend le baron. « Je regrette de ne pas pouvoir vous accompagner. » « Mon bon Pierre, j'ai besoin de toi pour garder le château. Il ne faut pas l'abandonner. Et puis, qui va s'occuper de mon cheval, de Miro et de Belzébuth ?»«
C'est vrai, maître, » répond Pierre.
Et il prend le cheval par la bride pour le ramener à l'écurie. Ce soir-là, l'ambiance est triste au château. Pierre partage son maigre repas avec Miro et Belzébuth, et dans l'écurie, on entend le cheval tirer sur sa chaîne.